La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième étape de notre voyage dans les terres de George Sand. Un voyage commencé lundi par la biographie de Sand, une femme souvent amoureuse, une femme tiraillée entre des origines populaires et aristocratiques, une femme qui fera de son château de Nohant un lieu de musique et de théâtre. Hier, nous parlions de la politique chez George Sand, elle qui a pris fait et cause pour la République et pour le socialisme. Demain, nous terminerons cette série par une plongée dans sa vaste correspondance. Et aujourd'hui... Eh bien aujourd'hui, voyage donc en terre sandienne, celle du Berry, où elle est née et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Mon invité s'appelle Vincent Robert, il enseigne l'histoire politique et culturelle du 19e siècle à la Sorbonne et il a publié l'an dernier aux Belles Lettres une étude sur les sorcières et la culture magique dans le Berry, telle que décrit par George Sand. C'est de cela donc dont nous parlons aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Entre la mare au diable et la petite fadette est l'intervalle d'une révolution dont George Sand a tout espéré pour la réalisation de son idéal, où elle a manifesté, où elle a multiplié les articles publics et même fondé un journal dont elle faisait la plus grande partie. Une révolution qui a échoué, Barbès arrêté, Louis Blanc mis en accusation, les massacres de juin 1848 et les déportations. Épouvantée et désespérée, George Sand a renoncé. Elle s'est réfugiée à Nohant. Elle cherche en écrivant un roman, non plus l'action militante, mais l'apaisement. Et de la petite fadette, qu'elle fit en septembre 1848, on a dit « Ici, l'inspiration champêtre est pure de tout mélange. Plus de théorie sociale, mais seulement le travail de la création artistique, stimulé par un grand besoin d'évasion. »
Archives de Jeanne-Marie Durie, professeur comme vous à la Sorbonne. Vincent Robert, bonjour.
Bonjour.
Qui parlait de La Petite Fadette, ce roman donc de George Sand dont on va parler aujourd'hui et qui est au cœur de votre étude historique sur, je le disais, la culture magique des campagnes au temps de George Sand. Mais d'abord, j'aimerais vous demander un petit peu, vous qui êtes historien, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce livre en particulier de George Sand ?
Bah, je m'y suis intéressé en fait parce que c'est le dernier que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années, mais je ne l'ai pas lu dans mon enfance, ce qui fait que quand je l'ai lu, j'avais lu beaucoup d'autres choses sur les croyances populaires, en particulier la sorcellerie. En particulier, j'avais lu un livre extraordinaire qui a été traduit sous le titre de « Les batailles nocturnes » du grand historien italien Carlo Ginzburg. Et en lisant « La petite fadette », je me suis dit qu'il y avait des choses qui était louche et qui me semblait avoir beaucoup plus à faire avec les croyances superstitieuses et que ça avait beaucoup plus d'importance qu'on ne croit généralement dans l'économie du roman et dans son sens en définitive.
Alors parce que quand on lit, quand on est en général adolescent, ce roman La Petite Fadette, évidemment, c'est des choses qu'on ne voit pas et on peut même aller plus loin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient dans ce roman réellement la place qu'on va développer aujourd'hui de la sorcellerie. Dans un extrait qu'on entendra tout à l'heure, on entend prononcer le mot sorcière, mais ça n'est pas extrêmement visible dans ce roman.
Alors là-dessus, c'est lié au fait que George Sand a une stratégie d'écriture qui est en fait assez complexe et qu'elle excelle à suggérer et non pas à dire explicitement un certain nombre de choses qui sont en fait à son époque de l'ordre du tabou ou des choses méprisées. C'est ce qu'on appelle un fatras de superstition qui, de la part du lecteur et de beaucoup d'autres écrivains, ne mérite pas la moindre attention. Donc, elle, à la fois elle veut rendre justice à la culture des paysans de son temps, y compris même à une partie de leur superstition, qu'elle entend bien dépasser, mais elle ne veut pas exposer les paysans de son temps à la moquerie des élites cultivées.
Oui, donc c'est un chemin de crête qu'elle emploie dans ce roman, ce qui fait que peut-être, au fond, son propos n'est pas évident à comprendre.
Son propos est masqué partiellement, mais la plupart des critiques littéraires, qui étaient des citadins, qui ne connaissaient pas les campagnes ou très mal, n'y ont vu que du feu et sont partis dans une lecture pastorale, c'est-à-dire comparable au roman de l'Antiquité ou aux poésies de l'Antiquité qui mettaient en scène des paysans de fiction, de convention, et qui représentaient d'une certaine manière un idéal moral opposé à la corruption des villes. Vieux thème que Sand ne partage pas exactement, mais c'était quelque chose d'important, disons.
Mais alors, cette manière de masquer un petit peu les choses, est-ce que ce n'est pas aussi une technique littéraire? Parce que on parle de romans qui sont littérairement d'excellents romans, des romans qu'on lit du début à la fin, sans jamais s'ennuyer, en y prenant beaucoup de plaisir. Enfin, ce sont de vrais romans, avant d'être, comme on le verra plus tard, des romans qui peuvent être soit politiques, qui peuvent être liés à l'histoire de la campagne berrichonne. Ce sont des vrais romans. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce masque que vous décrivez, Vincent Robert, une technique littéraire?
En fait, Sand est une romancière exceptionnelle parce qu'elle est capable de jouer en même temps sur plusieurs tableaux. Et il y a très très peu de gens à son époque, qui soit aussi capable d'elle qu'elle, d'entrelacer les fils, de suggérer sans dire, ou de laisser penser qu'il y a quelque chose de plus compliqué que ce qu'on pourrait croire.
C'est ça qui fait la force du roman,
selon vous ? C'est ce qui fait la force du roman, parce que son dynamisme est en fait lié, son dynamisme profond est lié à des aspects sombres de la culture des campagnes de cette époque-là. C'est une histoire, en fait, assez tragique, mais qui se termine bien.
Alors, racontons-la un petit peu, cette histoire, Vincent Robert. Une histoire qui est assez étonnante aussi dans sa construction, parce qu'il y a toute une première partie sur deux jumeaux, oui. De vrais jumeaux, qui s'appellent Sylvinet et Landry. Pourquoi ouvrir et faire toute une longue première partie avant que n'arrive la petite fadette, qui donne quand même son nom au roman et dont on va dire de qui il s'agit? Pourquoi faire cette longue partie sur ces deux jumeaux?
Alors d'abord parce qu'elle s'inspire vaguement d'un texte qui a été publié en occitan quelques années plus tôt par un écrivain un peu oublié qui s'appelait Jasmin. Et ensuite parce que la question des jumeaux est à cette époque-là pour beaucoup de gens... Bon, d'abord, c'est un thème littéraire fascinant. Par exemple, il y a Dumas l'utilise dans Les Frères Corse, qui est à peu près de la même époque. Bon, et ensuite, parce que la question des jumeaux c'est une essence qui n'est pas naturelle dans la culture des paysans, notamment.
C'est déjà de la sorcellerie.
C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, tellement merveilleux d'ailleurs que c'est lié souvent à un lieu, c'est-à-dire la ferme des jumeaux, s'appelle dans le Berry la Bessonnière. Et la Bessonnière, il y en a d'ailleurs dans le Berry réel, des Bessonnières, comme on disait à l'époque.
C'est les jumeaux.
Ce sont les lieux où sont nés des jumeaux. Parce que la naissance de vrais jumeaux, c'est quand même assez rare.
Et donc ça l'intrigue déjà énormément. Et on a presque l'impression qu'au départ, elle avait pensé faire un livre uniquement sur ces deux jumeaux. Tellement ça prend de place dans le livre. C'est parce que, comme s'il y en avait deux, finalement, des histoires dans ce livre.
Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. Mais la question des jumeaux est effectivement une question centrale, ce qu'on a un peu tendance à oublier, nous, mais que les contemporains avaient très bien compris.
Et alors, elle fait même un assez long détour pour faire comme un précis d'éducation à l'attention des parents qui auraient des jumeaux. Donc, on nous explique qu'il ne faut pas les habiller pareil, qu'il ne faut pas les nourrir du même lait. Et au fond, c'est ce qui va être fait quand même. On va les habiller pareil, on va les nourrir du même lait. Donc là, on entre dans la magie, Vincent Robert.
Ben, ce n'est pas elle qui fait le précis d'éducation des jumeaux. C'est le personnage de la sage-femme, la sagette, qui dit au départ qu'il faut les éduquer différemment l'un de l'autre.
Oui, c'est comme un sort qu'elle leur jette un petit
non,
peu.
Non, elle dit, c'est un avertissement. Elle dit, sinon, vous vous en repentirez. Et ça, pour nous, c'est une formule à quoi la plupart des gens d'aujourd'hui ne prêtent pas attention. C'est normal. Mais dans les campagnes du 19e siècle, vous vous en repentirez, ça annonce quasiment à coup sûr un maléfice, un sort jeté.
Et alors dans cette histoire de jumeaux, on se rend compte qu'ils sont fusionnels d'une manière qui paraît presque anormale. On peut parler d'une histoire d'amour entre ces deux garçons qui ne peuvent pas littéralement se séparer, qui dorment dans le même lit et qui, quand il faudra effectivement... qu'ils se séparent parce qu'ils sont plus âgés, le vivront pour l'un extrêmement mal et pour l'autre un petit peu mieux. Comment est-ce que vous voyez cette description très, très étrange, au fond, d'une relation entre deux frères ?
Il faudrait voir d'abord que certains aspects qui nous paraissent fusionnels sont en fait communs dans les campagnes. Hein. C'est-à-dire que des enfants partagent le même lit, c'est tout à fait normal, par exemple. Bon. Ensuite, ça fait partie, d'une certaine manière, de...
La question de la jalousie, par exemple, est extrêmement présente.
Très, très forte, oui. Mais ça s'explique aussi assez bien par, disons, des enjeux qui ne sont pas clairement dits, mais qui sont des enjeux de pouvoir en termes de succession de la ferme, éventuellement. Donc ça, disons que c'est quelque chose qui est sous-entendu, que Sand ne développe évidemment pas, mais pour un paysan de l'époque, ça a un sens. C'est-à-dire, entre les deux jumeaux, si le droit d'aînesse continue d'exister, or, dans les faits, plus dans les lois, il continue d'exister, il faut déterminer qui est l'aîné. Donc, il y a toujours, entre les deux jumeaux, il y a des tensions, forcément. Alors, ces tensions peuvent déboucher sur des rivalités, des jalousies, des attitudes qui sont effectivement beaucoup plus complexes que celles qu'on trouve entre deux simples frères et sœurs.
Et tout à coup, entre en scène donc la petite Fadette.
La petite Fadette n'était pas une enfant comme les autres. Elle n'était pas ombrageuse de son naturel. Et même, elle ne l'était pas assez. Car elle aimait à provoquer les injures ou les moqueries. Tant elle se sentait la langue bien affilée pour y répondre et avoir toujours le dernier et le plus piquant mot. Elle avait toujours les allures d'un gamin. Mêmement, elle affectait de tourmenter souvent Sylvinet, de le déranger et de le pousser à bout lorsqu'elle le surprenait dans les rêvasseries où il s'oubliait encore quelquefois. Elle le suivait toujours pendant un bout de chemin lorsqu'elle le rencontrait, se moquant de sa bessonnerie et lui tourmentant le cœur en lui disant que Landry ne l'aimait point et se moquait de sa peine. Aussi le pauvre Sylvinet, qui, encore plus que Landry, la croyait sorcière, s'étonnait-il qu'elle devinât ses pensées et la détestait bien cordialement. Il avait du mépris pour elle et pour sa famille. Et comme elle évitait Landry, il évitait ce méchant Grelet qui, disait-il, suivrait tôt ou tard l'exemple de sa mère, laquelle avait mené une mauvaise conduite, quitté son mari et finalement suivi les soldats. Elle était partie comme vivandière peu de temps après la naissance du Sauteriau. Et depuis, on n'en avait jamais entendu parler. Le mari était mort de chagrin et de honte. Et c'est comme cela que la vieille mère Fadet avait été obligée de se charger des deux enfants qu'elle soignait fort mal, tant à cause de sa chicherie que de son âge avancé, qu'elle ne lui permettait guère de les surveiller et de les tenir proprement. Pour toutes ces raisons, Landry, qui n'était pourtant pas aussi fier que Sylvinet, se sentait du dégoût pour la petite Fadette. Et regrettant d'avoir eu des rapports avec elle, il se gardait bien de le faire connaître à personne.
Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Vincent Robert ?
Cette présentation de la Fadette est très étrange parce qu'elle arrive déjà assez tard dans le roman. Mais elle arrive à un moment tout à fait particulier, qui est le moment où Landry craint que son frère, Sylvinet, qui a très mal vécu la séparation, puisque donc Landry a été placé dans la ferme d'un autre gros fermier, ce qui est une pratique habituelle, donc il craint, Landry, que Sylvinet se soit péri. En d'autres termes, qu'il se soit suicidé. Et s'il s'est suicidé, c'est-à-dire forcément en se noyant, les paysans du Berry généralement ne savent pas nager, se pose un problème majeur qui est de le retrouver vivant ou mort. Mais il ne sait pas comment retrouver son frère. Et il est allé demander en désespoir de cause à la mère Fadée, la sorcière, de ce qu'elle pouvait faire pour lui. Et la mère Fadée l'a envoyé promener parce qu'elle n'aime pas la famille de Landry et de Sylvinet.
Qui ont plus d'argent, peut-être.
Ce sont des riches.
Il y a quelque chose de l'ordre de la classe sociale, même au sein de la paysannerie, qui est analysée dans ce livre.
Bien sûr. Et donc, c'est à ce moment-là que, alors que Landry désespère, qu'il est complètement terrorisé à l'idée qu'il a perdu son Besson, définitivement, que la petite Fadette apparaît, et qu'elle apparaît par surprise, par effraction, dans le roman. Tout d'un coup, donc, elle lui tape sur l'épaule par derrière, et elle lui explique qu'elle peut lui faire retrouver son frère. Et comme elle est petite fille de sorcière, elle est suspectée, elle est tenue pour elle-même, graine de sorcière. Et donc, Landry se dit que, peut-être, pourquoi pas, elle pourra faire quelque chose pour lui.
Elle en joue peut-être un petit peu aussi. Elle ne dit pas qu'elle n'est pas elle-même une petite fille de sorcière.
Elle en joue parfaitement. Et je suis persuadé qu'elle reste beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit habituellement, sorcière. Ou graine de sorcière.
Vous voulez dire dans le roman ?
Dans le roman, oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce que le sort jeté se réalise ?
Alors, à ce moment-là, donc, il se passe une scène très étrange. C'est-à-dire que dans un premier temps, Landry a été extrêmement choqué de l'espèce d'agression qu'a commis Fadette en lui tapant sur l'épaule.
C'est une agression, vous dites ?
C'est presque une agression. Et il commence par l'agonie d'injures. Injures qui sous-entendent d'ailleurs, effectivement, de façon claire, pour les paysans de l'époque, qu'elle est considérée comme sorcière. Et ensuite, elle lui dit... Qu'est-ce que tu pourrais me donner si je t'aide à retrouver ton frère ? Après avoir.
Il y a un marché qui se joue.
Il y a un marché qui va se jouer. Après une scène très étrange, sans un mot, qui ne signifie rien pour la plupart des lecteurs du 19e siècle, sauf pour ceux qui ont eu une enfance paysanne. En fait, on voit l'orage qui monte à l'horizon, et Fadette continue, me lui dit. Qu'est-ce que tu me donneras si et voici l'orage qui vient et la rivière va emporter le corps de ton frère si loin que tu ne le retrouveras jamais. Donc une menace qu'elle accompagne d'un geste, elle monte sur une barrière et elle commence à lever les bras et les baisser. Ce qui signifie dans le lexique de la sorcellerie campagnarde qu'elle s'apprête à s'envoler pour piloter l'orage. Parce que les sorciers, c'est connu depuis très longtemps, dirigent les orages. Ils en font ce qu'ils veulent, ils peuvent les faire les déclencher, ils peuvent les faire tomber sur tel champ de telle personne qu'ils détestent, ou qu'ils ont été payés pour détester, etc., etc. Donc, elle met d'une certaine manière la pression sur Landry, et après, s'engage un marchandage. Qu'est-ce que tu me donneras ? Qu'est-ce que tu me donneras ? Là aussi, c'est quelque chose d'assez étrange. Parce qu'en fait, c'est une négociation qui passe par les objets. Et par les objets...
Pas par n'importe quels objets. Par des objets eux aussi magiques.
Pas magiques.
Qui ont une connotation.
Qui ont un sens.
Donc le couteau, c'est ça ?
Non, d'abord la poule.
La poule.
Je voudrais une poule. Une poule blanche, précise-t-elle. Ça, c'est destiné à expliquer à Landry, sans rien dire, que... Elle n'est pas une mauvaise sorcière, qu'elle est une magicienne, mais qu'elle lui est favorable. La poule blanche, c'est l'opposé de la poule noire. La poule noire, c'est celle qu'on amène avec soi quand on veut évoquer Georgeon, le diable des paysans du Berry. Donc une poule blanche, c'est le symbole de l'innocence et du bonheur. Et puis, après, elle change d'avis. Et elle dit « Non ». Et Landry se dit, est-ce que je pourrais pas te donner mon couteau neuf qu'on vient de m'offrir? Elle est tentée, elle regarde le couteau, et puis elle dit non. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit non? Parce qu'elle sait très bien ce que ça signifie. On n'offre pas un couteau à quelqu'un avec qui on est en relation d'amitié.
Mais alors du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pour le lecteur que nous sommes, qui lisons ce texte sans connaître tous ces codes, quelle est la part de ce compère et pourquoi George Sand écrit-elle de manière aussi codée ?
Alors, la part que, ce compère, c'est la dimension tragique ou la dimension dramatique de la scène. Parce qu'il est clair que si on ne croit pas que la fadette est en mesure de déclencher l'orage, on ne comprend pas l'angoisse de Landry. On a une scène qui est...
Et pourtant, c'est une scène qui marche quand même sur le plan purement narratif. Enfin, c'est une scène qui se lie avec une certaine forme de tension quand même.
Une forme de tension, mais une tension qu'on n'arrive pas à prendre vraiment au sérieux. Parce que nous ne connaissons pas les enjeux. Nous ne pouvons pas nous placer, enfin c'est difficile de se placer dans l'esprit des personnages. Et on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais ce qui se dit exactement par ses gestes et par ses propositions d'échange, d'objets, etc., n'est pas clair.
Alors pourquoi ne pas être plus clair quand on est George Sand et qu'on écrit cette scène ?
Parce qu'elle aime beaucoup maintenir cette ambiguïté, que cette ambiguïté donne un fond pittoresque pour la plupart des lecteurs, qui marche bien.
Ouais, c'est-à-dire que parfois, c'est mieux de ne pas tout saisir.
Dans ce cas-là, il faut souvent... Enfin, une partie du charme du roman, si vous voulez, c'est qu'il reste toujours des choses un peu mystérieuses.
Alors plus tard, Vincent Robert, le marché va se faire, la petite fadette va encore tirer d'un très mauvais pas l'un des deux jumeaux, Landry, et puis elle va demander à danser avec lui à la bourrée de la Sainte Andoche. Alors ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est très important parce que c'est là que se font les couples et c'est là que les jeunes gens les plus en vue dansent avec les autres jeunes gens les plus en vue. Et donc danser, être obligé de danser avec la petite fadette, c'est évidemment extrêmement humiliant parce que d'abord elle est très laide et que c'est une sorcière. Donc là c'est encore un troisième livre quasiment qui s'ouvre au sein de ce livre-là et d'un roman qui était au départ un petit peu psychologique sur ces deux enfants qui vivent, ces deux jumeaux qui sont très proches l'un de l'autre. Ensuite, ce côté sorcellerie qui tout d'un coup arrive dans le roman. Là, on passe à encore autre chose, c'est-à-dire, est-on populaire quand on est laid, quand on n'a pas d'argent, quand on est rejeté? Et donc là, on est plutôt sur un roman social, au fond, Vincent Robert.
Oui, mais il est clair que la mauvaise réputation de la petite fadette est liée à sa pauvreté, qui ne lui laisse pas vraiment le choix, en fait, des manières de gagner sa vie, de la même manière que sa grand-mère.
Donc ça, c'est un acte que pose George Sand, qui fait de ce roman un roman presque politique, presque engagé, presque social.
C'est un roman social, oui, et ça ne nous frappe pas toujours, parce que une partie des enjeux sociaux à l'intérieur de la paysannerie nous échappe, que nous ne comprenons plus quelle était la distance dans les campagnes de ce temps-là entre ce qu'on appelait les coqs de village, monde des paysans riches, à qui appartient Landry, et puis les misérables. Et les misérables qui n'ont pas de terre et qui sont en fait condamnés à bricoler, souvent aux marges du terroir. Le terroir est dominé par les grosses exploitations, comme celle du père de Landry. Mais les marges, à la frontière de la forêt, par exemple, là, c'est là que les pauvres vont essayer de trouver des moyens de survivre.
Donc ce que vous nous expliquez, Vincent Robert, c'est que George Sand fait, en plus de ses multiples romans, en plus de ce roman qui est déjà extrêmement littéraire, une analyse anthropologique de la société de son temps, et une analyse extrêmement fine, puisqu'elle va jusque dans l'inconscient et dans, la finesse des rapports entre les gens, les paysans de l'époque.
C'est en fait ce qui s'apparente le plus, effectivement, à l'anthropologie dans la littérature du XIXe siècle. C'est pour ça que c'est une observatrice extraordinaire des réalités sociales et culturelles des campagnes. Et il y a très peu de monde à cette époque-là qui prête autant d'attention à ces phénomènes-là. Et accessoirement, il faut rappeler que la génération suivante, les gens qui sont devenus des folkloristes professionnels, n'ont eu que mépris pour George Sand, en disant que c'était des histoires et que ce n'était pas bien précis, qu'elle brodait beaucoup, etc., etc.
Alors que vous dites le contraire.
Je dis le contraire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très attentive à tous les aspects. Et en particulier à quelque chose que les folkloristes de la génération suivante auront du mal à saisir, c'est-à-dire en fait au dynamisme interne de la culture populaire. Parce que ce dynamisme interne est lié à quelque chose que les campagnes connaissent bien, qui sont des récits oraux, qui se disent surtout, mais pas uniquement, à la veillée.
Et alors comment fait-elle, George Sand, pour elle qui n'est pas paysanne à proprement parler, pour saisir aussi finement le monde qui l'entoure ?
Elle est beaucoup plus paysanne qu'on ne le croit, d'abord. Parce que toute son enfance s'est déroulée à Nohant.
Oui, mais quand même, dans un château.
Non. Ce n'est pas... Bon, d'abord parce que, quand on voit Nohant, le château de Nohant, c'est pas une forteresse. Hein. C'est-à-dire, c'est l'équivalent d'une grosse maison bourgeoise, en gros. Et en fait, ce qu'a montré un historien de mes collègues, qui s'appelle Éric Mention-Rigaud, l'enfance au château des jeunes nobles est en fait une enfance très souvent et très tard, très proche des petits paysans.
Donc ça veut dire vivre vraiment.
Ça veut dire vivre vraiment.
Et aller aussi écouter des veillées, alors, où il se raconte des histoires.
Ça veut dire aussi... Surtout dans le cas de George Sand, parce que plus tard, ce sera peut-être un peu plus difficile. Mais ça veut dire aussi écouter ces histoires et aller au veiller. Il y a d'ailleurs dans les légendes rustiques, autant que je me souvienne, une description des veillées telles qu'elles se tenaient à Nohant dans l'enfance de la romancière.
Et d'ailleurs, la petite fadette, ça n'est pas officiellement elle qui tient le rôle de narrateur. Vincent Robert, le rôle du narrateur, c'est précisément un chanvreur.
Alors, le narrateur de ce roman, comme des deux précédents, La Mare au Diable et François le Champy, et comme le suivant, Les Maîtres Sonneurs, donc c'est le chanvreur.
C'est le chanvreur,
ce n'est pas un paysan, c'est quelqu'un qui vit à la campagne, mais qui s'occupe en fait du tissage du chanvre. Donc un métier plus artisanal, qui a partie liée avec des aspects tristes de la vie, de l'existence humaine, puisque en fait le chanvreur, il contribue à faire la toile dont on fait les cercueils, les linceuls. Excusez-moi.
C'est très clair pour tout le monde, alors.
À l'époque, oui. Bon. Donc, le chanvreur, c'est un de ceux dans les veillées qui, habituellement, portent la parole. Il y a lui et le sacristain. Le sacristain étant, lui aussi, dans une situation assez particulière de rapport à la mort, rapport au conte, rapport... ce sont des gens qui ont des choses à dire, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ça n'a pas d'importance.
Parce que le chanvreur dit qu'il n'y croit pas, par exemple, aux sorcières. Et George Sand dit qu'elle n'y croit pas non plus aux sorcières.
Le chanvreur dit qu'il n'y croit pas, mais il laisse entendre que une génération plus tôt, on y croyait encore.
C'est autre chose quand même.
Oui.
Il ne le reprend pas à son compte. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Vincent Robert, mais tout de suite à 15h et bientôt 30 minutes sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. en compagnie des revues avec aujourd'hui Hervé Aubron du magazine littéraire. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Le magazine littéraire de juin, il est encore en kiosque pour une semaine avec un dossier sur les écrivains au cinéma. Pierre Assouline nous en a parlé ici même il y a quelques temps. Et jeudi prochain, un nouveau numéro du magazine littéraire va paraître. Ce sera un numéro double, ouais. C'est ça, pour l'été, partir avec quelque chose de bien lourd, bien consistant pour la plage. Il n'y a pas de George Sand dans ce magazine, mais une consoeur qui est sa contemporaine, un petit peu plus âgée qu'elle, et qui s'appelle Marie Shelley.
Oui, Marie Shelley, je voulais faire signe à Marie Shelley, parce que, on va fêter quasiment jour pour jour, hein, c'est-à-dire demain, dans la nuit de demain, ça fera 200 ans que Marie Shelley a eu l'idée de Frankenstein, durant une fameuse nuit.
Parce qu'on sait exactement quel est le
jour
où elle a eu l'idée.
Oui, dans la préface de Frankenstein, elle explique que pendant cette fameuse retraite mythique, hein, quand même, avec son mari, avec Byron, bien sûr, avec aussi Polidori, en Suisse, dans la villa, une villa qui s'appelait la villa Diodati, sur les hauteurs de Genève, ils se retrouvent ensemble, Byron lance un concours pour écrire des histoires fantastiques. Au passage, alors, Polidori va écrire le vampire qui va être la matrice de Dracula, donc d'un certain point de vue, Dracula et Frankenstein naissent une même nuit.
Ouais, ça fait beaucoup, hein.
Marie Shelley, qui a 19 ans à l'époque, d'abord dit qu'elle ne s'en sent pas capable, et bizarrement, elle a un cauchemar où elle a la vision de Frankenstein. Et donc, elle va rédiger le livre très vite, puisque le livre va paraître de manière anonyme en 1818, si ma mémoire est bonne. Ce qui est très beau, c'est que le livre lui-même est une espèce de créature de Frankenstein, puisqu'elle va y revenir plusieurs fois, au moins trois fois, puisqu'en 31, il y a l'édition de 31 qui est censée être l'édition dont elle est la plus certaine.
Je vous laisse continuer tout de suite, mais je voudrais demander quand même à Vincent Robert, parce que c'est votre période aussi, quand même, le 19e siècle, Marie Shelley, les sorcières, Frankenstein, est-ce qu'on est dans quelque chose de totalement différent, ou est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait sur George Sand?
On peut faire des liens, c'est évident. C'est-à-dire que, bon, déjà, cette situation où les gens se mettent ensemble pour se raconter des histoires ou imaginer des histoires, c'est pas réservé aux paysans. C'est clair que dans d'autres groupes sociaux, ça peut arriver. D'autre part, le cauchemar, par exemple, est aussi comme celui qu'a eu Marie Shelley. C'est aussi une des figures de l'imaginaire paysan. C'est ce qu'on voit dans le tableau célèbre de Fuseli.
Hervé Aubron.
Il se trouve qu'à cette occasion, la Fondation Bodmer à Genève, donc voisine de cette fameuse villa, a ouvert une grande exposition sur le laboratoire, en quelque sorte, de ce livre, et une exposition qui va courir tout l'été, je crois, jusqu'à début octobre prochain. Et il se trouve donc qu'on a structuré un dossier autour de cette première figure moderne de l'humanité artificielle.
Qui est du coup le sujet d'un grand dossier sur le post-humain dans le magazine littéraire, sujet très à la mode.
Voilà, oui, sujet très à la mode, mais sujet quand même de plus en plus brûlant. On a voulu y apporter, on va dire, des éclairages en effet littéraires, et pas seulement du côté de la science-fiction, du côté des arts, bien sûr, du côté du cinéma, de la philosophie, de l'anthropologie, d'ailleurs en rapport aussi avec l'exposition qu'ébranle la Persona, qui rappelle, bien que dans les traditions animistes, il y avait déjà des rapports tout à fait équivalent, enfin, il y avait des choses sur lesquelles on projetait de l'homme. Donc, disons qu'on a essayé, voilà, autour de, évidemment, Frankenstein, il y a une place de choix, puisque, quand même, Marie Shelley a eu une prescience incroyable, quand même, à 19 ans, cette fameuse nuit du 16 au 17 juin 1816. Frankenstein, c'était un roman fantastique, en effet, mais là, on approche quand même d'horizons de plus en plus curieux, je dirais, sur cette espèce d'humanité augmentée ou d'humanité artificielle qu'on nous vend à la jonction entre animal, enfin entre l'homme et la machine. On a l'impression que l'homme, entre l'animal et la machine, on a l'impression que l'homme devient une variable d'ajustement et que qui se reconfigure totalement. Donc voilà, on a essayé de faire un dossier autour de cette figure humaine totalement reformulée. Et puis en contrepoint, simplement, on a fait un petit ensemble sur les humanités au sens classique et notamment le latin et le grec. Parce que l'affaire n'est pas du tout close et le débat va se relancer à la rentrée, ce débat sur la réforme du collège. Et puis enfin, le reste du numéro, c'est sur des poches pour l'été, voilà, spécial poche avec des nouveautés, des redécouvertes.
Merci Hervé Aubron.
Merci à vous.
Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de George Sand et de son rapport aux contes et légendes de son pays, le Berry. Nous sommes en compagnie de l'historien Vincent Robert.
J'avais couru chercher la grise. Je l'ai poussée tant que j'ai pu. J'arrive à la mort au diable. Le feu fume encore. Il y a une vieille qui ramasse du bois. Mais elle est complètement sourde.
Oui, mon garçon, c'est bien ici. C'est la terrible mort au diable. C'est un endroit qui est maudit. Faut pas s'en approcher sans jeter trois pierres dans l'eau en faisant trois signes de croix. Ça éloignera les esprits. Sinon, il arrive malheur. On marche, on marche. On peut marcher pendant 200 lieues sans pouvoir sortir d'ici.
Mais je ne vous parle pas de ça. Avez-vous vu passer ici une femme et un jeune enfant?
Oui, j'ai vu passer un enfant, un pauvre enfant. Il s'est noyé il y a de ça bien longtemps.
Un extrait donc de La Mare au Diable dans une fiction de 1991, extirpée des archives de France Culture. Est-ce que vous trouvez que c'est une adaptation fidèle ou est-ce que vous avez, comme moi je dois l'avouer, des réserves sur cette adaptation?
J'aurais sans doute moins de réserves que vous.
Ah, moins de réserves?
Oui, parce qu'en fait, c'est... Enfin, en sélectionnant cet extrait, on focalise l'attention sur un thème qui est très présent dans la culture paysanne, qui est justement celle des vieilles femmes qui ont des pouvoirs. Et un des pouvoirs, c'est justement, souvent, bon, d'abord, elles transmettent la mémoire des choses qui se sont passées autrefois, mais très souvent aussi, elles prévoient l'avenir. Donc, elles sont dans une situation très étrange et elles sont, disons, quand même relativement redoutée.
Mais pas toutes les vieilles femmes, seulement certaines d'entre elles.
Certaines d'entre elles. Mais dans ce cas-là, ça me semble assez clair.
Il faut dire que, et là on peut peut-être faire un petit peu d'histoire, au 19e siècle, il n'y a pas forcément de médecins à la campagne, mais en revanche, il y a des rebouteux qui peuvent parfois avoir des compétences qui sont celles des médecins qui se sont transmises comme ça de génération en génération. Donc il y a un fond de vérité, même plus qu'un fond de vérité.
Il y a un fond de vérité, oui. Parce qu'il faut d'abord se rappeler que la médecine du 1er 19e siècle, en gros avant la révolution pastorienne, n'est pas très efficace. Les élites cultivées savent très bien qu'elle le sera. Ils n'en doutent pas un instant. Mais concrètement, les médecins ne vivent pas dans les campagnes. Ils vont très rarement. En fait, c'est surtout des sous-médecins dans la période qui nous occupe, ceux qu'on appelle les officiers de santé, qui sont moins bien formés, qui vivent pas exactement dans les campagnes, mais dans les bourgs. Et pour qu'un de ces officiers de santé se déplace jusqu'à un village, il faut payer très cher. Et les paysans n'ont pas les moyens. Donc ils recourent aux personnages qui, sur place, passent pour avoir des pouvoirs thaumaturgiques, qui sont souvent aussi liés à un don de préscience de l'avenir, qui sont souvent aussi liés à des compétences comme celle de la coucheuse de village, donc la sagette du roman de George Sand.
Donc cette superstition, c'est celle-là qu'on retrouve chez George Sand, à la fois dans La Petite Fadette et puis aussi dans La Mare au Diable?
Oui, c'est ce monde magique qui est derrière tout ça. Mais La Petite Fadette est le seul de ces romans dans lequel les croyances magiques jouent un rôle déterminant pour l'intrigue, soutiennent l'intrigue.
Oui, sinon c'est toujours un contexte et uniquement cela.
Sinon c'est un usage un peu pittoresque, qui est d'ailleurs efficace littérairement.
Alors, Redisons peut-être que ces romans, La Mare au Diable, François le Champi, La Petite Fadette, sont des romans qui font partie d'un cycle. Comment l'idée de ce cycle vient-elle à Georges Sand et quel est son projet ?
Alors, c'est un cycle, mais un cycle après coup. C'est-à-dire que...
Elle ne se rend pas compte immédiatement.
Elle a envisagé d'appeler le cycle, les quatre romans, les Veillées du Chanvreur, mais elle ne s'y est pas tenue et elle a simplement mis en valeur donc le personnage du Chanvreur comme narrateur qui assure la bonne compréhension entre la langue des paysans du Berry et la langue que lisent les lecteurs. Donc, elle l'a mise en scène dans ces trois romans et en définitive, elle s'en sert pour donner une uniformité de ton. Mais elle a écrit d'autres textes sur les aspects de la culture des campagnes qui ne s'insèrent pas dans ces romans du Chanvreur, soit parce qu'ils étaient destinés à un autre public, soit parce que c'était un essai de, en particulier je pense à un extraordinaire roman très oublié qui s'appelle Jeanne. C'était un essai de voir ce qu'on pouvait faire avec des personnages paysans.
Donc ça signifie qu'elle a ce projet depuis longtemps.
Elle a comme projet depuis le début des années 1840 de rendre justice à la paysannerie. Et à ceux qui sont finalement les plus méprisés, pas forcément les plus malheureux, mais en tout cas certainement les plus méprisés de la société française, c'est-à-dire les paysans pauvres.
Et c'est pour cette raison qu'elle ne souhaite pas non plus que la sorcellerie y soit trop apparente, parce que ça ne serait pas rendre justice aux paysans dont on dirait, regardez, ils vivent comme il y a un millénaire et ils sont loin de la modernité qui arrive avec le 19e siècle.
Exactement.
Ce cycle donc qui contient la Mare au Diable, on peut peut-être dire qu'il se place dans un contexte plus large qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le roman rustique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce roman rustique, ce type de roman, quel roman rustique ?
Alors ce type de roman est en fait quelque chose qui, quand Georges Sand commence à écrire Jeanne, puis Le Meunier d'Angibault, puis La Mare au Diable, etc., donc, est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que on prend pour héros des paysans. Ces gens qui, jusque-là, n'apparaissaient qu'aux marges de la littérature. Regardez chez Chrétien III, par exemple, il y a bien un vilain, mais c'est vraiment quelque chose qui est très méprisable et très effrayant et absolument pas valorisé. Or, cette tradition aristocratique de mépris des paysans a la vie dure.
Il y a quand même des romans qui sont des romans pastoraux.
Il y a des pastorales. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucune prétention de rendre compte d'un réel. C'est-à-dire l'Astrée, par exemple, c'est un univers irréel, de fiction, pleinement de fiction. Estelle et Némorin, de Florian, c'est un peu la même chose, encore que ça se discute légèrement. Mais ça fait de toute façon longtemps qu'on n'en a pas écrit. Et vers 1840, il y a une sorte d'explosion de cette littérature s'intéressant aux paysans dans plusieurs pays d'Europe. Il y a d'abord...
Qu'est-ce qui cause cet intérêt soudain ?
En fait, c'est la redécouverte du peuple par ce qu'on pourrait appeler le courant romantique. Courant romantique dans ces deux variantes, c'est-à-dire à la fois la variante archaïque, ou plutôt nobiliaire, sur le thème « nous devons revaloriser ce qui s'est fait autrefois », sous-entendu avant la Révolution, rendre justice aux campagnes d'avant de la Révolution, aux paysans qui sont des gardiens fidèles des traditions du passé, ou bien, deuxième possibilité, celle de Georges Sand et de ses amis, essayer de comprendre quelles sont les possibilités démocratiques de la majorité du peuple, c'est-à-dire à cette époque-là, des paysans.
Ah oui, vous allez donc jusqu'à faire la jonction entre l'activité politique de George Sand et ses romans qui semblent à l'opposé de la politique et dont elle dit dans sa préface précisément que c'est pour se reposer de la politique de la Révolution de 48, parce que c'est un roman qui date de 1848, qu'elle écrit ce texte-là.
Ce n'est pas faux. Mais ça n'est pas complètement vrai non plus. En fait, parce que on a tendance à croire que George
Sand. Je parle de la petite fadette.
On a tendance à croire que George Sand est résigné à la perte de ses espoirs après juin 1848. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans les années 1848-1851, elle continue de collaborer à des journaux et à des publications démocratiques. Elle continue de patronner des poètes ouvriers et elle continue d'espérer dans une perspective beaucoup plus lointaine, c'est-à-dire pas forcément dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais elle continue de faire confiance au développement démocratique de la société, les ouvriers, bien entendu, mais c'est pas son monde. Elle les connaît de plus en plus mal après juin 1848, ça c'est évident, et aussi les paysans, qui pourtant, en apparence, se sont révélés des soutiens de l'ordre établi.
Et est-ce que vous pensez qu'elle y est arrivée? Est-ce que vous trouvez que ces romans de ce cycle-là, et de manière plus générale, les romans rustiques, ont changé l'image qu'on a pu avoir du rapport entre paysannerie et démocratie? Est-ce qu'on a changé de regard?
Pour une part, oui. Mais... la difficulté, c'est que les gens qui pouvaient vraiment comprendre ce qu'elle disait dans les romans rustiques, d'abord, il est très rare que les gens disent ce qu'ils ont lu dans un roman, et ensuite, ceux qui pouvaient vraiment comprendre de quoi il était question, ne tenaient pas à en faire étalage. Parce que s'ils étaient de milieux cultivés, ils s'exposaient au risque d'être considérés comme eux-mêmes superstitieux, et donc indécrottablement ruraux ou attardés.
Écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de George Sand et de La Mare au Diable en particulier. La Mare au Diable, c'est un voyage au cours duquel on s'égare. Vincent Robert, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce livre?
L'histoire de ce livre, c'est en fait celle d'un paysan à l'aise qui s'appelle Germain, qui se retrouve veuf et qui, se retrouvant veuf, est pressé par ses beaux-parents de se remarier. Il en va de la survie économique de la ferme. Il faut qu'il se remarie. Il n'en a pas vraiment envie parce qu'il est très attaché au souvenir de sa femme, mais en même temps, il faut quelqu'un pour veiller sur ses enfants. Il faut une femme qui puisse, en définitive, tenir la maison. Là, c'est la contrainte socio-économique très clair pour les paysans de cette époque-là. Donc, ses beaux-parents lui indiquent qu'il y a un parti éventuel dans un village situé assez loin. Il faut bien, c'est pour ça qu'il prendra une jument pour y aller. Et une jeune veuve, autant que je me souvienne, appartenant à une famille aisée, et donc il y aura une dot conséquente, c'est important. Donc, il se laisse persuader d'aller voir donc cette famille pour voir si le mariage pourrait se faire. Mais le chemin va être assez long et assez compliqué parce qu'ils vont s'égarer.
Et ça rappelle un événement de la vie de George Sand qui elle-même, dans des circonstances un petit peu similaires, c'était une nuit avec d'autres personnes égarées auprès d'une mare qui pourrait bien être cette mare au diable. Mais je vous laisse continuer.
Oui, mais il faut voir qu'on est là dans une constante de l'imaginaire des campagnes. C'est-à-dire, un des pouvoirs prêtés aux sorciers, c'est celui de faire perdre le sens de l'orientation à certaines personnes, dans certaines circonstances, de préférence la nuit. Et en fait, là, il y aura effectivement quelque chose qui est une expérience vécue par George Sand, qui a pu la traumatiser ou du moins la marquer, qu'elle n'a évidemment pas attribuée à la sorcellerie, mais dont elle sait que d'autres qu'elle l'auraient attribuée à la sorcellerie. Et donc, elle pourra en jouer. Elle connaît très bien les arrière-plans possibles. Et en fait, donc, c'est autour de la mare au diable que se jouera le destin de Germain et de celle qui deviendra son épouse, alors qu'elle ne devrait pas le devenir, puisque c'est une pauvresse du village, la petite Marie.
Et alors là, est-ce que vous diriez qu'on reprend exactement les mêmes catégories que dans la petite fadette et que le recours à la sorcellerie a la même fonction que dans la petite fadette ?
Non, parce que la petite Marie n'est pas sorcière. Et que, mais en fait, si on prend un roman très curieux et très peu connu qui a été publié par George Sand en 1853 ou 54, qui s'appelle « Le diable au champ », on voit réapparaître Germain et la petite Marie. Or, Germain, en tant que bon laboureur, a des secrets. Il a des connaissances magiques très limitées, mais très utiles. Et la petite Marie a aussi ses secrets en tant que bonne ménagère. Alors, c'est le secret des vaches pour la petite Marie, puisque ce sont les femmes qui s'occupent de tout ce qui touche au lait dans les fermes.
Est-ce qu'il y aura aussi, chez George Sand, la volonté, voyant que la modernité arrive, que peut-être toutes ces légendes vont s'effacer au fur et à mesure, la volonté de témoigner de ce monde, qui est aussi le monde de son enfance, peut-être, et du coup, de faire œuvre pour des historiens comme vous, de documentation, d'une certaine façon.
Il y a une volonté de témoigner, parce qu'elle est effectivement persuadée que ces choses-là sont en train de disparaître. Mais là, elle se trompe, parce que ces choses-là ne sont pas vraiment en train de disparaître, elles sont simplement en train de se transformer, et elle ne reconnaît plus les formes, ou elle n'est plus au centre des réseaux sociaux qui lui permettraient de comprendre que ces choses-là ne se subsisteront en se transformant, en perdant certaines dimensions, mais en gros, tout le monde sait que les croyances superstitieuses ont eu la vie très dure dans beaucoup de campagnes françaises jusqu'à une période très récente.
Oui.
Ceci dit, sans vouloir absolument porter un jugement méprisant ou dépréciatif.
Oui. Parce que c'était justement exactement ce que n'aurait pas souhaité George Sand, oui. Qu'on appelait la sorcière d'ailleurs. Pour terminer, vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu ça.
Alors ça, c'est quelque chose de très drôle que j'ai trouvé par hasard grâce, je ne me souviens plus, c'est une collègue qui l'a publié dans les cahiers des amis de George Sand. En fait, dans un dictionnaire infernal, publié par un individu très pittoresque qui s'appelle Colin de Plancy, une gravure d'une édition de 1857 ou de 1860 qui renvoie à l'article Sozine. Donc cette gravure peut être on représente très certainement George Sand.
Oui, mais ça c'est isolé, ça ne veut pas dire que tout le monde la prenait pour une sorcière, ou est-ce que quand même, cette femme habillée en homme, elle pouvait faire un petit peu peur au milieu installé ?
Disons que, comme toute personne qui avait une inspiration, elle était, même dans la culture savante, un peu suspecte. C'était certainement pas quelqu'un d'ordinaire, et les gens de cette époque-là parlaient à propos d'elle de génie hermaphrodite. Ce qui en dit plus sur l'époque que sur George Sand.
Merci beaucoup Vincent Robert pour cet éclairage sur la sorcellerie cachée dans les livres de George Sand. Tout de suite sur France Culture, la poésie. Et c'est bien sûr avec Jacques Bonafé qui nous propose toute la semaine d'habiter poétiquement le monde.
Bonjour. Cette semaine, nous feuilletons « Habiter poétiquement le monde », anthologie manifeste parue chez Poésis, les citations d'Hölderlin, Schlegel, Novalis, Woodworth, Keats, Hugo, Leopardi, Sand, Lamartine, Emily Dickinson, Poe, Whitman, Baudelaire, Rimbaud, etc., compose cette anthologie pour Michaud, habiter poétiquement le monde. Henri Michaud, je ne sais pas faire de poèmes, ne me considère pas comme un poète, ne trouve pas particulièrement de la poésie dans les poèmes et ne suis pas le premier à le dire. La poésie, qu'elle soit transport, invention ou musique, est toujours un impondérable qui peut se trouver dans n'importe quel genre, soudain élargissement du monde. Sa densité peut être bien plus forte dans un tableau, une photographie, une cabane. Ce qui irrite et gêne dans les poèmes, c'est le narcissisme, le quiétisme de cul-de-sac et l'attendrissement assommant sur ses propres sentiments. Je finis par le pire, le côté délibéré. Or, la poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail. La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. Propos en 1943. Souvenir, poème d'Henri Michaud. Semblable à la nature, semblable à la nature, semblable à la nature, à la nature, à la nature, à la nature, semblable au duvet, semblable à la pensée, et semblable aussi en quelque matière au globe de la terre, semblable à l'erreur, à la douceur et à la cruauté, à ce qui n'est pas vrai, n'arrête pas, à la tête d'un clou enfoncé, au sommeil qui vous reprend d'autant plus qu'on s'est occupé ailleurs, à une chanson en langue étrangère, à une dent qui souffre et reste vigilante, à l'orocaria qui étend ses branches dans un patio et qui forme son harmonie sans présenter ses comptes et ne fait pas le critique d'art, à la poussière qu'il y a en été, à un malade qui tremble, à l'œil qui perd une larme et se lave ainsi, à des nuages qui se superposent, rétrécissent l'horizon mais font penser au ciel, aux lueurs d'une gare la nuit quand on arrive, quand on ne sait pas s'il y aura encore des trains, au mot hindou, pour celui qui n'alla jamais où l'on en trouve dans toutes les rues, à ce qu'on raconte de la mort, à une voile dans le Pacifique, à une poule sous une feuille de bananier, une après-midi qu'il pleut, à la caresse d'une grande fatigue, à une promesse à longue échéance, au mouvement qu'il y a dans un nid de fourmis, à une aile de condor quand l'autre aile est déjà au versant opposé de la montagne, à des mélanges, à la moelle en même temps qu'au mensonge, à un jeune bambou en même temps qu'au tigre qui écrase le jeune bambou, semblable à moi, enfin, et plus encore à ce qui n'est pas moi. Baille, toi qui étais ma baille.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Ainsi s'achève ce troisième numéro d'une compagnie des auteurs consacrée à George Sand. Un grand merci à vous Vincent Robert d'être venu nous voir ici au studio 108 de la Maison de Radio France. Je rappelle que votre livre « La petite fille de la sorcière, enquête sur la culture magique des campagnes au temps de George Sand » est publié aux Belles Lettres. Demain, notre dernier numéro de la semaine, nous nous plongerons dans l'immense correspondance de l'écrivaine de Berrichonne qui faisait travailler la poste de Nohant comme personne. D'ici là, sachez que cette émission émission est disponible en podcast. Nous sommes également présents sur Twitter et Facebook. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À la réalisation cette semaine, c'est David Jacuboviez, à la console Jacques Hubert. Merci à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Sophie de Lombarès et Anne-Vanessa Prévost, pardon, je l'ai déjà dit.